Et voilà.
Est-ce que vous pouvez me raconter quelques histoires de votre enfance?
Alors, l'histoire de mon enfance, oui. Je commence déjà à écrire un petit livre sur, autobiographique sur ma vie. Et je peux vous donner même l'intitulé Orza, talisman de ma vie. Orza, c'est la combinaison anagrammatique de Zohra. Et talisman fait un lien avec Orza, qui veut dire Herz en arabe.
Oui.
Et là, c'est pratiquement toute une vie qui me fait replonger dans mon enfance, où je voyais ma mère sortir une nuit de sa chambre, et je la voyais tout en blanc, avec des cheveux tressés, en indienne, et j'étais tellement pris dans cette image métaphorique de la blancheur et de la pureté d'une maman très jeune, s'est mariée à 16 ans, que je me suis dit, tiens, le reflet de sa pureté de blancheur renvoie vers mon cheval blanc. Parce que j'avais un petit cheval blanc que j'aimais beaucoup, que mon père m'avait acheté pour la simple raison qu'il me poussait à ce que j'aille jusqu'au fond de mes études, le plus loin possible.
Un vrai cheval blanc?
Oui, un vrai cheval blanc. Et là, je faisais, avant de partir à l'école à 8h moins quart, j'étais obligé de passer par l'école coranique, parce que tout l'enseignement se faisait en français, et à 5h30, 6h, juste après la première prière, on me poussait tout jeune d'aller à l'école coranique qui était juste à côté. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert le système linguistique arabe, et ça m'a permis de revoir un peu, en classe, après 8h, après la leçon de morale, qui se faisait il y a très longtemps, sur le mensonge, sur la propreté, j'en passe, sur ce cours de français qui s'est allé jusqu'à 15h, je faisais un peu le parallèle. Et je me revois, là vous me donnez l'occasion, et merci beaucoup, de vous dire un peu de vérité de mon enfance. Quand je revenais à l'école, je voyais ma mère qui était un peu heureuse de me revoir, parce qu'il n'y avait que ma grande sœur, l'aînée, qui est en France, et moi j'étais le deuxième, et ensuite s'en est suivi le troisième, le quatrième, jusqu'à l'infini. Et là, je me suis dit, tiens, ma mère, elle a tout préparé, et elle m'attendait au seuil de la porte, et elle me disait, ça s'est bien marché, tu as appris tes versets, tu as bien appris le français. Qu'est-ce qu'on t'a appris? Tout le questionnement des parents inquiets sur un avenir, des enfants. Puis je lui dis, maman, écoute, j'ai beaucoup de problèmes avec l'enseignant d'arabe, parce que j'ai passé beaucoup plus de temps avec Madame Couturier, M. Marmol, Madame Bordonado, enfin des souvenirs qui me reviennent comme ça, et Madame Méningier, qui j'espère est vivante, oui, elle est toujours vivante, que j'ai cherché sur Internet. Et ma foi, j'étais occupé à beaucoup plus à passer mon temps rêveur en classe et à penser à mon cheval blanc. Il occupait toute ma partie d'enfance, parce que quand nous avons quitté la montagne, parce qu'il y avait un problème politique, disons comme ça, tout simplement, pour mon père, il était obligé de fuir, on est rentré en ville, et rentrer en ville, c'est quitter toutes ses racines.
Oui,
quitter la montagne, c'est quitter son cheval, c'est quitter son chien. J'avais aussi un chien abattu par des soldats français devant moi. Ouais, devant moi. Ils sont rentrés, commençaient à tirer sur toutes les bouteilles placées sur des petites étagères. Il n'y avait pas de cuisine, hein, donc il n'y avait que des petits cailloux, les trois cailloux là qu'on mettait, sur lesquels on placer des récipients pour préparer le repas. Et ma mère, jusqu'à maintenant, je la vois dans sa pureté de blancheur, tout le temps. Je suis à ma 50e page, et j'espère que je vais le finir incessamment, et je trouverai bien une édition. Voilà.
Mais c'était où la montagne?
Alors la montagne, c'était à Beni Rachet, donc c'est tout haut, Oui.
Près de Ténasma.
Ah non. Béni Rached, c'est vous allez de Wetfoda vers le nord.
Ah d'accord.
Tout Oulad Abbas et vous montez jusqu'à la montagne.
Oui.
Et c'était la montagne dans toute sa splendeur.
J'imagine que vous avez de très bonnes relations avec les membres de la famille. Surtout avec votre mère, pardon.
Oui, c'est pas grave. De toute façon, la relation mère-enfant, elle est freudienne, elle est oedipale, elle est ombilicale, surtout. N'oubliez pas que, chère demoiselle, que je suis sorti de ce ventre. Donc la relation n'est pas seulement parentale, elle est très profonde. Très profonde pour la simple raison, en lisant Lacan et Freud, au niveau de la critique psychanalytique, je me suis dit, tiens, effectivement, une maman, c'est quelque chose de phénoménal, de formidable, qu'on ne pourrait jamais trouver ailleurs, et où l'on retrouve surtout l'assurance et la sécurité. Même à un certain âge. Même à un âge très avancé. C'est le chêne, hein, c'est le chêne, la maman, c'est le chêne qui continue à monter. Donc, lorsqu'elle monte, ça veut dire qu'elle avance dans l'âge, et elle fait beaucoup d'ombre. Et là, on se retrouve au niveau de ce sol, et on peut discuter. Et là, on retrouve toute la richesse de l'expérience d'une vie pleine de soubresauts.
Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre relation avec votre père?
Mon père, c'était mon ami, en toute honnêteté. Parce que lorsque j'ai commencé à mon incipit sur mon livre, la sortie de la chambre de ma mère, je n'ai pas dit que c'était mon père. Je l'ai appelé le ronfleur, elle l'a abandonné, elle est venue me voir. C'est purement imaginaire, bien sûr, il faut le constater, parce que l'imagination, elle est maîtresse d'erreurs et de faussetés, elle peut me dire n'importe quoi, mais je me souvenais qu'elle sortait souvent dans la réalité, et elle laissait mon papa dormir.
Ronfler,
surtout peut-être après leurs actes amoureux, je ne sais pas, je ne pouvais pas être avec eux. Et puis, il y avait trois pièces, une pièce où dormait mon père, une deuxième pièce où l'on mangeait, une petite cuisine, et en face il y avait une grande chambre, oui. Et juste à côté, il y avait un petit espace pour le cheval. Et il était mitoyen. On dirait que on attendait tous cette pureté sortir. Mon père, lui, il a été commerçant. Il avait un petit camion de marque Renault. Et puis, il avait une petite épicerie. Il réussissait surtout à gagner sa vie. Il était très nerveux. Je me souviens de sa première raclée. Lorsque, au lieu de ramener les pastèques comme elles étaient, je les ai ouvertes avant d'arriver à la maison. J'ai goûté pour voir si effectivement elle avait de la bonne saveur. En arrivant, ma mère lui a raconté l'histoire, ce qu'il nous a ramené. C'était la raclée. Puis, mon père, c'était quelqu'un qui pensait beaucoup plus aux études. Et là, ça me revient une petite anecdote de mon frère qui est en Suisse, qui a eu son bac avec mention très bien.
L'année passée.
Oui, c'est celui-là qui est venu l'année passée. Il enseigne en Suisse. Et il a, c'était le bon élève en classe. Il était excellent en maths. Et un jour, le prof de maths, après avoir corrigé l'exercice, il est sorti. Il est resté un petit moment avec un prof d'arabe qui était égyptien. Il faisait uniquement la matière d'arabe. Et lorsqu'il rentrait, on commençait à rire. Parce que c'était quelqu'un de très gros, puis il suait. Et le premier réflexe qu'il a eu, il lui a dit, toi, pourquoi tu ris? Le premier du banc. Et il est allé raconter l'histoire à mon père que votre fils, voilà. Il lui a mis la corde au cou, il lui a attaché les poignets, il l'a ramené jusqu'à l'enseignant d'arabe, il lui a demandé de présenter les excuses. Mon père était analphabète. Il n'est jamais allé à l'école. Ni ma mère aussi. Je dois le signaler. et les relations ont été amicales jusqu'à sa mort en mars 1996. Et c'était le grand choc pour moi parce que je n'avais pas perdu un père, mais un grand ami. Parce que nous avons vécu ensemble pendant longtemps. Il est mort. Et à 96-2008, ça fait avec combien 12 ans qu'il est parti. Et donc, ça m'a marqué à chaque fois ces images qui reviennent. L'ami, l'absent.
Vous parliez quelle langue à la maison? Quelle langue parlaient-ils vos parents?
Alors, c'est la langue dialectale. Hein, c'est la langue de la rue, c'est la langue, la première langue de la société, dans la famille, l'arabe dialectale.
Et vos parents parlaient français?
Pas du tout. J'ai dit qu'ils étaient analphabètes. Et on a eu la chance d'avoir été pris en charge par l'école française de l'époque.
C'est l'école uniquement.
Ouais, uniquement l'école qui nous a permis de mieux voir l'avenir et de nous satisfaire en besoins littéraires et scientifiques grâce à cette langue qui est le français. Sans pour autant négliger l'arabe.
Oui.
Grâce à l'école coranique.
En parlant des études, quelles anecdotes pouvez-vous nous raconter sur le premier jour de votre scolarité?
Pour ma scolarité?
Oui, premier jour.
Oui, le premier jour. Non, je vais raconter quelque chose que j'ai vécu. J'étais amoureux de ma prof de français.
C'est évidemment.
Oui, en cinquième, que vous appelez maintenant en deuxième année moyenne.
Moyenne, oui.
Je l'aimais beaucoup, cette dame. J'étais tellement amoureux d'elle. Je ne savais pas que j'étais amoureux. Mais je vous dis qu'il y avait tellement de... une force qui me poussait d'aller vers elle. J'allais jusqu'à elle, à la maison. Non pas que je l'aimais sentimentalement, etc. Mais il y a quelque chose en elle que je n'ai pas compris et qui m'attirait. Et la deuxième partie de l'anecdote, c'est que cette dame... J'ai senti qu'elle m'aimait aussi, mais il n'y avait pas ce rapport qui est apparent. Et lorsque le prof de maths l'a remplacé, le prof de maths en français, à chaque fois lorsqu'il venait voir mon exercice, il me disait « Tiens, ton frère a fini, toi tu es encore en train de souligner ?» C'était l'exercice de maths parce que j'étais très faible en maths. Alors ce que je tenais à vous dire aussi sur ce...
Vous étiez dans la même classe?
Dans la même classe, oui.
Vous n'avez pas le même âge?
Si, à 2 ans près. Lui, il est rentré à 5 ans, je suis rentré à 7 ans.
Et vous avez toujours été dans la même classe même
jusqu'à ce qu'il parte en lui, jusqu'à ce qu'il y ait orientation au lycée. Lui, moi, je suis parti en littéraire, philosophie, etc. Et lui, il est parti en maths à Oran. À Oran, il a passé son bac. Et ensuite, il a reçu le fax du ministère de l'Énergie pour aller en Suisse avec une société mixte.
Mais comment ça se fait que tu sois rentré si tard? Enfin, pourquoi vous n'êtes pas... Je comprends pas. Pourquoi est-ce que vous aviez 2 ans d'écart et vous étiez dans...
Parce que lui, il est rentré à 5 ans. Il était né en 54, il est rentré en 59. Et moi, j'avais 7 ans et je suis rentré en 59. Donc, j'avais 7 ans.
Mm-hmm.
Au lieu de rentrer à 6 ans, je suis rentré une année
en retard,
tout simplement. Parce que l'âge, c'était 6 ans.
À cause de la guerre ou...
Oui, c'est surtout le manque d'école. Et puis, il fallait que je descende de la montagne pour aller à l'école, parce que c'était difficile de rester en montagne et de ne pas pouvoir apprendre la science de montagne.
Tu avais quel âge quand vous êtes descendu à Chlef?
Alors, on est descendu en 56. J'avais 4 ans, 5 ans, 56, et puis en 59, j'ai fait l'école.
D'accord. Et vous?
Alors, je veux que vous terminiez votre anecdote, de raconter votre anecdote.
Une troisième, une énième?
Non, vous avez commencé à raconter l'anecdote avec votre professeur de français.
Oui.
Alors, on s'est arrêté, voilà, avec le professeur de maths.
Oui.
Comment ça s'est fini avec la prof de français?
Je ne lui ai pas fait ma déclaration.
Non?
Ah non, elle est restée secrète pour moi.
Elle est partie en France après?
Ah, oui, elle est partie en France et puis...
Vers quand?
Vers 62, 63, et puis c'était ensuite des enseignants de français aussi. Et
dans un premier continué. Temps, français?
Non, j'ai eu un encadrement totalement français jusqu'en terminale. Donc il n'y avait que le prof d'arabe qui venait à chaque fois pour enseigner la matière d'arabe. Mais là, l'arabe, je l'ai appris à l'école coranique. ce qui me permettait de faire
la double dose
des signes.
Ouais, il y a eu les enseignants français jusque dans les années 70.
Jusqu'aux années 74, où il y a eu algérianisation du corps enseignant. 74, 76 même. Juste après l'ordonnance de 76, avec l'avènement de l'école fondamentale.
Et l'arabisation, ça
doit être. Et l'arabisation, bien sûr.